Si. Je suis né en 1925. 1925. C'est-à-dire que en 41, j'ai 15 ans. Je suis en troisième. Parce qu'à cette époque, on rentre au lycée fréquent. Merci. Le lycée. Je dis le lycée parce que ici, le lycée de la sixième à la terminale. Vous êtes au courant des régimes politiques de cette époque, hein, 33, enfin, en Italie, le régime fasciste, hein, en Allemagne, le régime nazi, en URSS, Staline, hein, en Espagne, Franco. Alors, au milieu de pays dits démocratiques, hein, la France et l'Angleterre, qui sont aussi des puissances coloniales. La colonisation, c'est un motif de fierté pour la France. On a un des plus grands empires coloniaux du monde, avec celui d'Angleterre. Donc, une fierté de ça, une fierté de nos hommes, de nos grands hommes, les classiques en particulier, les classiques Racine, Corneille, Molière. On est fier de nos savants, on est fier de beaucoup de choses. On est fier aussi de résister aux Allemands en 1438. Et on est content de vous. Bon, arrive Hitler, donc, avec 1938, Munich, 1939, l'invasion de la Pologne. Par les Allemands et l'URSS en même temps et qui se partagent la Pologne. La guerre, donc, la drôle de guerre, on déclare la guerre. Mais on reste l'arme au pied. Et puis tout en disant qu'on va forger l'acier victorieux et toute une quantité de redondantes diverses. Et puis, l'attaque allemande en mai 40. Alors, j'en viens au point de départ. 15 ans, c'est l'effondrement. C'est le cas de dire, c'est l'effondrement non seulement militaire, mais dans nos esprits, c'est l'effondrement de ce qu'on pensait être la France. Alors, difficile de se remettre de ça. C'est un choc, comprenez-le. On passe de la situation de grande puissance à une nation asservie. Pétain, bon, en recours, hein, le vainqueur de Verdun. Hein, le vainqueur de Verdun est une caution, mais une caution que on récuse, hein, que certains récusent assez rapidement, pas tous, puisque tout au long de la guerre, il y aura des pétainistes en majorité. Alors, De Gaulle. 18 juin, l'appel de 18 juin, il est peu connu. Encore que les journaux de l'époque, hein, qui n'étaient pas encore tout à fait soumis à la censure, les mentionnaient, il faut bien le dire. Mais on oublie. On oublie parce que l'Allemagne paraît tellement puissante qu'on se dit que l'Angleterre ne prendra pas à succomber. Et on vit, la monde, et beaucoup d'entre nous, en se disant, d'une semaine à l'autre, on va nous annoncer un débarquement en Angleterre. On est donc à la fin de l'année 40. Moi, à la fin de l'année 40, en novembre, un de mes amis intimes, qui restait un ami jusqu'à la fin de sa vie, me prend à part et me montre une photo. Il s'agit d'une photo du colonel de Gaulle, d'une photo d'identité, tout simple. Il me dit, c'était le colonel de Gaulle, il est maintenant général. Il est en Angleterre, il y a des Français avec lui, la lutte se poursuit. Alors tout ça, c'est un langage qui vous paraît bien patriotique, Mais oui, l'époque, c'est un peu ça. Donc, j'enregistre, la photo, il me la montre, il la garde. Quelques jours après, il m'apporte un texte qui donne des raisons d'espérer. C'est un petit texte mal écrit, mal reproduit. Et ces textes vont se succéder petit à petit, tous les 15 jours, 3 semaines. De plus en plus, ils nous apporteront des informations qui complètent ce que nous apporte de façon de plus en plus tendancieuse, la presse censurée. Alors, cette fin d'année 40 et d'année 41 est une année très sombre. On n'a pas de raison de penser que l'Allemagne ne va pas cesser son expansion. Extrêmement triste jusqu'en juin 41. Rappelez-vous, juin 41, c'est l'invasion de l'URSS par les armées d'Hitler. Alors, bon, nous, ça me fait un grand plaisir. Premièrement, parce que si l'Allemagne se tourne vers l'URSS, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas envahir l'Angleterre tout de suite. Autrement dit, on respire un peu de ce côté-là. D'autre part, on se dit, eh bien oui, voilà un autre ennemi de l'Allemagne. Une raison peut-être d'espérer un peu. Parce que l'espoir était vraiment enterré, j'insiste là-dessus, enterré. Alors, il y a donc un petit peu. Les armées allemandes vont très rapidement envahir l'URSS. Elles arrivent aux portes de Moscou. On annonce, la tenaille se referme autour de Moscou. Bon, on a l'exemple de Napoléon. On dit, après tout, Napoléon, lui, il a pris Moscou, et puis il a bien dû revenir. Oui. Alors, arrive l'hiver. Bon, on se dit, tiens, ils n'ont pas pris Moscou. Et puis arrive décembre. Bon, 41, c'est par là pour l'entrée en lice des États-Unis. Alors, on en est à recevoir donc des communiqués. Qu'on diffuse ou qu'on montre et qu'on commence à diffuser entre nous. Mais il faut être bien clair là-dessus. En 41, les résistants en France, il y en a 1 sur 100 000 ou 1 sur 50 000. C'est cet ordre, je pense, c'est le chiffre précis. C'est cet ordre, c'est une infime minorité. Alors, évidemment, avec les deux éléments en question, la situation évolue légèrement. Concernant nos activités à nous, c'est-à-dire le fait de recevoir et de diffuser des textes, ça s'améliore doucement, les textes sont de meilleure qualité. Ils nous apportent des renseignements de plus en plus précis et on élargit tout doucement notre audience. En 42, l'organisation de la résistance commence. On commence à se constituer en réseau. Alors, moi, je suis chef de site. Je suis site. Dans le lycée, il y a une trentaine. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, on a un surveillage qui s'appelle Barangeon, qui a un poste important dans une organisation de résistance qui s'appelle Refuge, Force Unie de la Jeunesse et Patriote. Avec lui, il a deux élèves, l'un qui s'appelle Marcel Tonon et l'autre qui s'appelle Paul Morin. En 1942, je vous rappelle que fin 42, c'est le département en Afrique du Nord. C'est l'époque où, profitant de cette opportunité, les Allemands envahissent la zone sud. Vous savez que la France était divisée en deux zones, la zone sud, zone occupée, et la zone nord, zone occupée, et la zone sud, qui était en principe zone libre. Les Allemands envahissant l'ensemble de la France, la flotte, je le précise, se saborde à Toulon, parce que la flotte était hors des conditions d'armistice, ce qui rend les Allemands furieux d'ailleurs, mais la France n'en tient pas occupée. En tant qu'à. En 1942, un autre événement important, les Allemands ont renoncé à Moscou et ils ont décidé de s'infiltrer vers le Caucase, d'où ils couperaient les communications, je ne sais pas si vous voyez la géographie, et en particulier l'alimentation en matériel des USA. Vers la Russie, vers l'URSS, bon, qui transitait par l'Iran. Et il est certain qu'en envahissant Kherson, les Allemands auraient d'une part bénéficié de pétrole de la région de Bakou, et que d'autre part, ils auraient interrompu ce ravitaillement essentiel. Il s'ensuira la bataille de Stalingrad, que vous connaissez tous. Bon, autre raison d'espérer, en même temps que les réseaux se constituent, les journaux clandestins deviennent de véritables journaux et on les diffuse de façon un peu plus approfondie. Alors, pour ce qui me concerne, outre la Silénicie, puisque je suis originaire de Arban, à côté de Lyon, je diffuse des la presse clandestine à Arban et à Lyon. Auprès d'une quinzaine de personnes. Les réseaux, donc, se constituent petit à petit, se renforcent en 1943, mais les Allemands, ayant occupé la zone sud, en même temps, leur système de répression s'est installé, la Gestapo s'est installée, et depuis 1943, commencent les arrestations. Alors, Barange est arrêté rapidement, heureusement, il est relâché, il se trouve pas. Conjoncture favorable vers la Chine. Par contre, Tenon est arrêté quelque temps après, c'est-à-dire en mars, peut-être avril. Morin est arrêté un mois après. Ensuite, notre prof de Gilles, Cochet, est arrêté 3 jours après. Vous voyez, la répression est là. Il faut faire attention. Alors, la diffusion donc, de la presse clandestine et toute chose, en même temps, on fait du maniement d'armes, c'est-à-dire que dans une ferme voisine de Bourg, on va de temps en temps s'initier au maniement de la mitraillette. Et je précise pour ce qui me concerne que l'on me confie à cette époque, à ma demande, une notice de maniement du fusil mitrailleur, qui, comme vous savez, est une arme extrêmement redoutable pour la guérilla. Alors, on est donc en 43, fin 43, je suis en terminale S. Les actions se poursuivent, mais pour ce qui me concerne, je continue simplement ma diffusion de journaux. Il faut travailler un petit peu. Par contre, pas mal de nos camarades commencent à participer à des actions de sabotage divers. Arrive une date importante pour nous, c'est le 5 juin 1944. Elle n'est pas encore arrivée, parce que depuis le 3 juin, on passe notre bac. Vous savez, à l'époque, il y avait deux bacs, le bac à la fin de l'année et puis le bac à la fin de terminale. Donc, moi, j'ai dans le terminal. Donc, on commence notre chemin, c'est bon. Il y a eu une alerte, parce que dans le temps, il y avait cette alerte aérienne. Une épreuve, l'épreuve de maths, est reportée. Et elle est reportée précédemment au 5 juin 44 après-midi. Le matin, on planchait en fio, je crois. Et on entend des tirs de mitraillette à côté d'ici. Alors les miliciens patrouillaient dans la ville depuis quelques jours, ils tiraient un petit peu à droite à gauche, mais là, on entend un tir nourri. Qu'est-ce qu'on fasse? La tête au-dessus. On sort, on a mangé, et en sortant, à une heure et demie, un élève de première, qui avait donc passé son bac, son premier bac, quelques fois, vient me trouver. Il me dit, je viens de la part de Jean-Marie. Jean-Marie. Ce matin, ils ont eu un accrochage avec la milice. Il y a eu deux blessés, dont un de nos camarades fait prisonnier. Il est vraisemblable que, compte tenu de ce qu'on sait de la milice, il sera interrogé machinement et qu'il risque de parler. Qu'est-ce que vous devez faire à vous décider? Alors, moi, je me dis, ma citoyenne, rapidement, dans la cour d'honneur. Et puis, je leur présente le problème. Alors, bon, on ne sait pas. Il restait plus que les 3 heures du matin, on hésite. Finalement, on décide de rester. Alors, on reste. Mais à 4 heures, on entend de nouveau des tirs, cette fois, ils sont plus près. La milice envahit le lycée. Fait sortir tout le monde dans la cour de l'épreuve, on prend bien sûr les épreuves du bac. Et pour ce qui me concerne, je suis dans une salle qui est proche de la cour de l'épreuve. Bon, je passe sur les détails. Tout d'un coup, un milicien fait éruption. Il nous fait sortir. Moi, on m'appelle. Et puis, je me présente. Je n'aurai pas beaucoup de solutions. Bon, le général de la milice me reçoit un coup de poing, un coup de pied, enfin bref, je tombe. On est arrêté. Alors là, autre transition brutale. Passer de la position d'homme libre à la position d'arrestation, c'est dur. Faut que j'aille vite. Bon, on fouille nos affaires. On passe en interrogatoire. Je vous parlais peut-être d'interrogatoire tout à l'heure. Oui, bon, je sais pas ce qu'on doit voir. Au début, on nous prend bien un commercial. Mais il est certain que l'interruption des épreuves du bac au lycée à Bourg a fait un petit peu de bruit. Si bien qu'il y a des hommes politiques qui se réveillent, qui interviennent auprès. Pour nous, auprès de la milice. Et finalement, on décide de nous envoyer en Allemagne dans un camp de représailles. Je précise un camp de représailles parce que vous savez qu'il y a différentes sortes de camps. Il y a à partir des volontaires qui partaient travailler en Allemagne, ce qu'on appelait les requis du STO, du service du travail obligatoire, je ne sais pas si vous savez ça, bon, qui étaient déjà contraints. Il y a ensuite ceux qui ont été arrêtés comme nous. Et qui ont eu la chance d'échapper au strict camp de concentration. Et puis au-delà du camp de concentration, il y a les camps de discrimination. Voilà, en gros, la classification. Alors donc, on nous envoie en Allemagne et on atterrit en Haute-Silésie. Alors, on est en Haute-Silésie en juillet. À Strasbourg, on travaille. Moi, je travaillais de nuit. Il fallait que je parte à 5 heures. L'après-midi, il y avait une heure de marche, 12 heures de travail, une heure de marche pour rentrer. Au début, on travaillait 6 jours sur 7, après 6 jours sur 9. Bon, au bout de 3 mois, on finit par se faire cette habitude, c'est extrêmement pénible, on arrive. Et au bout de 3 mois, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Bon, je trouve pas le moyen de m'évader, parce que la Haute-Silésie, c'est loin. J'avais envisagé une rive de traverser la Tchécoslovaquie, qui passait par l'Autriche, de franchir les Alpes, et d'aller soit en Italie, soit en Suisse. C'est un peu rêvé. Je sais pas si j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Et puis, arrive novembre, et je fais un complexe, je me dis quand même, je me suis pas évadé, c'est pas normal. Et je décide de plus travailler. Donc, je deviens, à partir de fin novembre, clandestin. C'est une situation extrêmement dangereuse, que j'assume difficilement. Je suis habitué à partir du moment où j'ai commencé. Et j'en suis à mes réflexions. Elle est triste quand, début janvier, les Russes qui étaient arrivés aux portes de la Vistule, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, l'insurrection de Varsovie, on en parlera peut-être, décident d'attaquer. Donc, l'attaque d'hiver russe se produit début janvier. Alors, moi, je prends aussi une décision. Je vais partir en direction des Russes. Difficile de trouver une équipe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour les rassurements. Il y en a eu, et en particulier, il y a eu des truands, des voyous, qui étaient arrêtés à Paris, dans le banlieue parisienne. Et ils étaient assez nombreux parmi nous. J'en ai trouvé trois d'entre eux qui n'étaient pas présents. On est parti, on finit de 5. Et on est parti. Là, c'était l'Odyssée, le franchissement des lignes, très difficile. Parce que les lignes, c'est pas du tout les lignes de front de la guerre de 14, avec les tranchées à 50 mètres. Là, il y a des chars qui avancent de 5, 10, 20 km. Mais derrière, il y a des poches de résistance qui subsistent. On a navigué à pied là-dedans pendant 8 jours. Nous n'avions tenu qu'un fil, une fois en particulier. Et puis, ensuite, on est arrivé en Pologne, on a continué à marcher. D'une façon qui était peut-être un peu imprudente aussi. Enfin bon, je passe là-dessus. Et on s'est promené jusqu'aux confins de l'URSS, dans des conditions très diverses. Ensuite, on est remonté jusqu'à Lublin. À Lublin, on a accepté de prendre en charge, mais on a gardé un contact avec la population. Je cite là-dessus, on est transféré en URSS, de là à Odessa, et d'Odessa, on est rentré par la mer Noire, le Bosphore, l'Adanel, la mer Égée, le Port Saïd, la Méditerranée, le détroit de Messine, Naples, etc. Une croisière, comme j'en aurais. Vous en avez que moi, à cette époque, j'étais libre depuis déjà 5 mois. J'étais en excellente condition physique. Je dormais 3 heures par nuit. Et j'ai profité de la croisière comme je vous souhaite d'en profiter. Mais c'est pas possible. Voilà, et je suis rentré donc, le 10 juin 1945, c'est-à-dire un an et 5 jours après notre arrestation. Bon, je m'arrête là. Je crois que j'ai légèrement dépassé. Le train est parti. Alors, je passe la parole. Excusez-moi d'avoir été si rapide, mais.
Moi, je voulais savoir, en 40, dans l'appel de De Gaulle, vous aviez 15 ans. Donc, est-ce que pour vous, c'était déjà clair, vous rentreriez dans la résistance à 15 ans ?
Moi, je vous ai dit que mon premier contact avec la résistance, c'était effectivement à 15 ans. Bon, mais c'est un contact, vous l'avez vu, qui est c'est une sympathie, un contact de sympathie. Bon, je commence à adhérer, disons, à partir de 16 ans et demi. Oui, là, je commence effectivement à prendre des contacts, à avoir conscience. Avoir nourri une espérance autour de la résistance, enfin de Gaulle, il faut dire aussi, assez emblématique, et à me dire que oui, il y a des choses à faire en France. À partir de là, 16 ans et demi, bon, c'est difficile de donner une date. Moi, je donne cette date parce qu'elle était pour moi importante. La date où on m'a montré cette photo, c'est quand même été une certaine révélation. Et puis, associé au fait donc qu'il y avait une représentation effective de la France en Grande-Bretagne, et qui arrivait au moment où notre souci de voir l'Angleterre envahie était très grand. Il a été d'autant plus grand à ce moment-là que cette espérance était plus grande encore. J'ai répondu.
Lorsque vous avez été arrêté et amené en Allemagne, vous étiez toujours au courant des informations de ce qui se passait dans le reste de l'Europe ou pas ?
On était au courant des lignes de front. On savait par exemple, moi j'avais chez moi, une carte de l'Europe où j'épinglais le retrait avec plaisir des troubles allemands. de ce côté-là, dans l'état, avec bien sûr les commentaires. C'était ce qu'on appelait les Allemands appelaient le repli politique. C'était un repli pour mieux rebondir. Bon, en fait, ils reculaient. Bon. Alors, ces inventions-là, hein, oui, on les avait. Elles étaient toujours censurées, elles étaient minimisées, bien entendu. Et c'est dans ce sens que l'approche clandestine est intéressante. Elle nous compléterait, démentait les inventions qu'on se fait officiellement.
Malgré votre jeune âge, quand vous êtes engagé dans la résistance, est-ce que vous vous sentiez vraiment concerné par les conflits?
Oui, concerné par les conflits, oui. Ça, incontestable. Il faut dire que cette progression unique en 38, la guerre, la débâcle, je vous le dis, c'est une rupture. Il vous a semblé difficile de comprendre à quel point on change de statut. C'est un peu comme l'arrestation. Moi, j'ai connu deux périodes comme ça. Mon arrestation, la débâcle et mon arrestation. Où, d'un seul coup, vous êtes autre chose. Vous étiez là, ou vous tenez là. Alors, oui, une prise de conscience incontestable. Est-ce que tout le monde l'avait? Non, sans doute. Et je crois que c'est ce qui caractérise les résistants. C'est qu'ils étaient intéressés par cette évolution à la fois militaire et politique. C'est une prise de conscience politique, oui, au sens d'un plus terme, qui est importante. Si j'ai un message à vous transmettre, ça ayez une conscience politique. Pas forcément des partis politiques, mais une conscience politique. Ça, c'est essentiel. Là, chez nous, ça a été aiguisé par les événements qu'on a vécu. C'est bien ce que vous voulez.
Quand vous disiez que vous distribuiez des journaux clandestins à Oyonnax et Arban, ça se passait comment, la fabrication de ces tracts et,
La fabrication. Il y avait d'abord une imprimerie clandestine à Bourg même. C'est important, ça, qui éditait Birkheim. Il y en avait à Lyon. Lyon est un grand centre de résistance. Cette région a été un grand centre de résistance. Donc, il y avait des journaux locaux, mais on recevait aussi d'autres journaux, tels que Combat, Libération et autres. Il y avait un réseau de transmission qui fonctionnait relativement bien. Et si bien que moi, quand je partais chez mes parents, j'avais toujours une liasse, c'est un sacré problème, d'ailleurs, donc, liasse de journaux à diffuser, que je diffusais moi, auprès de trois personnes qui eux-mêmes dispatchaient ensuite, même auprès de 3 ou 4 autres, aussi bien que ça aurait été. Il y avait 15 personnes qui ont touché directement. Je crois qu'il y a une autre question. Non.
En fait, je voulais demander quel a été votre rôle dans la résistance.
Oh, mon rôle. La résistance pour m'en dire. Je dis pour m'en dire parce que pour moi, ma résistance est en deux parties. Il y a une résistance ici, une résistance quand j'étais en Pologne. Donc, je considère comme une résistance. Alors, ici, c'était la diffusion des journaux. C'était les discussions qu'on avait sur entretenir une certaine ambiance de résistance. C'était le maniement d'armes, bien sûr. C'était, une espèce de préparation psychologique à ce qui devait se passer à partir du département. Pour nous, on vivait dans l'espoir du département. Enfin, dans l'espoir, c'est pas un espoir. Ah, c'est une certitude. La seule chose qu'on ne sait pas, c'était la date. Et donc, on disait, quand arrivera le débarquement, on s'est mobilisé et on était organisé pour ça. La difficulté étant de maintenir une certaine étanchéité entre les membres, parce qu'il est certain qu'avec les méthodes d'interrogatoire, n'importe qui peut craquer. N'importe qui. Le problème était que pour nous, par exemple.
Est-ce que vos parents savaient que vous étiez dans la résistance ou pas?
Oui, ils le savaient. D'une certaine façon, ils l'approuvaient. D'une autre façon, ils le regrettaient. Sinon, ils regrettaient pour la sécurité. Mais ils partageaient. Difficile, ça. Difficile, parce que quand on se transapte, on sait qu'on implique automatiquement son entourage. Et le danger était grand. dont j'ai tout à l'heure. Je vous citerai l'exemple d'un de ceux que j'ai contacté à Oyonnax, qui s'appelait Bézillon, qui a été arrêté. En réalité, il a été arrêté par son frère, Tetomaki, et que lui, on voulait lui faire avouer où était son frère. C'est horrible ce qu'on a fait. Horrible. Vous savez, on parle d'interrogatoire. Moi, j'ai donc été interrogé. Je peux en parler, c'est vrai. Méchamment. Je regarde encore des traces. Mais ce n'est pas la torture. La torture, ça commence avec les sévices définitifs. Mais si on l'a arraché les ongles, ça repousse, on l'a cassé les dents. On l'a arraché les yeux. C'est dangereux. Dangereux, l'entourage, sûr. Chez moi.
Le recrutement d'armes. Comment vous arrivez les armes?
Ah, les armes, il y avait deux sources. Ou les dépôts d'armes. Il y avait trois, si on peut dire. De ce dépôt d'armes qui existait en France au moment de la débâcle. Il y a eu quelques dépôts d'armes. Pas beaucoup, ils ont été facilement récupérés par d'autres. Il y avait les armes qu'on pouvait prendre. C'est-à-dire quand des gendarmes passaient de notre côté, mais avec leurs armes, et puis il y a eu les fameux parachutages. Mais parachutages qui ont été très discrets, disons, pendant longtemps, qui sont arrivés tardivement, avec la coordination précise entre ce qui se passait en France et ce qui se passait à Londres. Elle a parfois été très bonne, d'autres fois un peu plus distante. Alors, puis d'autre part, c'était pas facile. Il y a des parachutages qui ont parfois, vous en avez entendu parler, tombé ailleurs que là où vous étiez destiné. Les armes manquaient beaucoup. On parle beaucoup de maquis avant le débarquement. En fait, ces maquis étaient souvent dépourvus d'armes. Non. En très grande partie. Bon, ils sont devenus ensuite j'ai prévu de vous parler peut-être d'autres résistances. Il est certain qu'on a peu de renseignements sur les autres résistances, la résistance yougoslave, par exemple, qui est assez extraordinaire. Tito a réussi à résister à des armées allemandes. Des armées allemandes. Le terrain s'y prêtait sans doute, mais les pertes ont été considérables aussi. Eux, ils étaient armés parce que Churchill avait décidé d'armer le maquis yougoslave. Il avait décidé que c'était un centre important qui pouvait mobiliser les armées allemandes dans ce sens, il avait raison. Alors que nous, notre destination était davantage d'aider la progression des armées alliées après le débarquement. Nous, on avait donc un rôle en perspective, alors que les Yougoslaves ont effectué un rôle dans leur présent. C'est intéressant, la résistance yougoslave. Je ne pas que je vais minimiser la résistance française, mais elle est une autre nature.
Et où alliez-vous pour l'organisation de vos actions, pour se retrouver tous et...
Pas moule.
Et où alliez-vous pour organiser les actions où vous meniez
ici. Là, le maniement d'armes, c'était dans une ferme qui est près de 20. Hein? Non, pardon, près de 9 fois de 5. Alors, les autres actions, elles étaient très différentes. Il y avait les plasticages classiques, des vitrines, des commerçants, collaborateurs, de façon à montrer qu'on existait. Il y avait les plasticages de pylônes électriques, les sabotages des voies. Bon, le sabotage des voies qui avait été contrecarré par les Allemands, avec ce qu'on appelle les gardes des voies, puisqu'on était requis pour garder chacun pendant la nuit, on tient tel, vous aurez à garder tel tronçon de voie dont vous serez responsable. Alors, évidemment, c'est difficile à assumer. Mais bon, si il avait été résistant pendant que moi, je gardais des voies, puisqu'il était comme les autres, si des résistants étaient venus pour plastiquer les voies, qu'est-ce que je fasse, je leur ai dit, allez-y. Mais moi, ça m'aurait mis des situations difficiles. On est tous comme ça. Hein. Difficile, la résistance, parce que... Bon, on avait une double vie. Hein. On ne peut pas dire qu'on ait fait de grandes actions, en résistance, pour ce qui me concerne. En tout cas, et pour beaucoup d'autres. Mais par contre, le danger existait. Ça, il n'y a aucun doute. Le danger existait, d'ailleurs, il s'est manifesté. Je ne sais pas si je répondais bien à votre question. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est les moments, je dois dire, dont je suis fier. Bon. Ça a été, d'une part, mon interrogatoire, et d'autre part, mon évasion. Bon, voilà. Ce que je peux vous dire, c'était des moments difficiles, pas toutes, hein, les interrogatoires, c'est dur. Hein. L'évasion aussi, bon, on risque sa vie dans les deux cas. Il y a d'autres choses que de mon, où ma fierté est ambiguë. C'est le fait que j'ai été clandestin dans le camp. C'est complètement con. C'est un acte de courage. Je connais rien. Ma propre estime, sans doute, en partie. Hein. Je ne pouvais pas m'évader à ce moment-là, donc j'ai choisi cette solution. C'est ridicule. Hein, on risque pas ça comme ça. Là, s'il y a une chose que je peux vous dire, ne risquez pas votre vie. Moi, j'ai vu à côté de nous, quand on a été arrêté, il y avait un jeune type qui avait été arrêté en combat et qui était dans la cellule à côté de mienne et qui invectivait les miliciens. Il avait de la tchatch, il avait du oui, il avait des arguments, il avait de la croix, il avait tout. Les miliciens ne savaient pas quoi faire. Au début, ils répondaient. Après, ils l'ont tabassé, puis ils ne savaient plus grand rien. Et aucun d'eux ne savait me répondre, ils ont trouvé la solution. Ils l'ont pris et ils l'ont tiré un coup de mire dans le dos. C'est dommage. Pendant que, quand ils parlaient comme ça, hein, moi je regrettais, j'avais envie de lui dire peut-être pas. Hein, c'est un courage inutile. Il faut se méfier de ce courage-là. Il faut rester utile. Puis ménager sa vie. Hein. Bon, le reste, oui, il faut s'en faire. Alors, si je peux me permettre, engagez-vous, mais n'engagez pas votre vie. Il y a mieux à faire. Mais l'engagement, oui. Oui, je peux vous dire, il y a des dangers. À mon avis, il y a aujourd'hui des dangers. Ce n'est pas les mêmes mains, mais ils existent. L'engagement me paraît aujourd'hui indispensable. Si je suis ici, c'est parce que je pense ça. Uniquement pour bouger du plaisir, vous m'écoutez, c'est gentil. Mais indépendamment de ça, Oui, il faut être vigilant, il faut être lucide, vigilant, lucide, vigilant. La presse n'est pas servie comme la guerre, mais elle pratique une sorte d'autocensure qui n'est pas bonne. Bon, il faut se renseigner, il faut avoir une conscience politique. J'apprête politique au sens philosophique du terme. Bon, dans un parti, hein, c'est une chose.
Vous avez dit que pendant les conflits, vous étiez sûr de redevenir à nouveau libre. Et je voulais savoir, est-ce que c'est cette certitude qui vous a permis de vivre au moins de votre pays?
Vivre loin d'un pays. Il est certain que cette période a été extrêmement importante pour toute ma vie. Alors, vivre loin de mon pays, oui, il faut être animé une fois. Moi, je peux dire que j'ai vécu cette période avec une très forte intensité. Ça vous paraît banal. D'autres l'ont pas vu comme ça. Je connais, j'ai beaucoup d'amis qui ont souffert, hein, qui se rappellent de leur souffrance. Moi, c'est pas tellement ma souffrance dont je me rappelle. Et que j'ai eu à l'époque en tête, c'était ma liberté, ma libération. Il y a certains, cette envie d'être pour être libre, hein, reste aujourd'hui très vivante, très vivace, mais elle est née là, c'est vrai. Il n'y a rien de tel qu'en cette enchaînée pour vous dire qu'il faut se battre pour redevenir libre. Alors il y avait différentes façons de mener le combat, à la fois ici et en Pologne. Je crois que l'essentiel, c'est dans la tête. Il faut, oui. On peut vivre en généralement et libre dans sa tête. C'est vrai. Ouais. Il faut garder ça. Cette liberté de penser, elle n'est pas si évidente. On est assailli, bonjour, c'est aujourd'hui, dans une période où l'information circule. Bon, c'est difficile à maîtriser. Je ne prétends pas du tout le faire. Mais il faut chercher. Bon, la vie, c'est une quête, la vie, c'est une charge permanente. Hein, sinon, comment ça se fait? Et l'amour aussi, bien sûr.
Il y avait beaucoup de lamentations, vous étiez assez solidaire.
Vous voulez parler de où? Ici ou en.
Ici.
Ici. Bon, il y avait donc des mouvements différents. Il y avait l'armée secrète, il y avait les fugitifs, il y avait FTP et autres. Il y a eu parfois des conflits entre les groupes. Il n'y avait pas des conflits, on ne battait pas. Ouais, il y a des influences. Il faut reconnaître que l'histoire de l'URSS qui fait alliance avec l'Allemagne en 1939 et qui s'en sépare, enfin qui en sépare également en 1941. Ça a mis en difficulté les communistes, c'est vrai. Alors, des conflits entre personnes à l'intérieur d'un groupe. Non, pas de conflit. Mais la grande différence entre des groupes de résistants et l'armée, c'est que dans l'armée, il y a des ordres. Dans la résistance, les ordres, on a l'impression qu'on a toujours possibilité de discuter. Hein. Alors, c'est difficile de tourner, il faut faire le combat. Mais une solidarité, oui. Oui, on était. Alors, bon, la résistance, je vous l'ai dit, on est extrêmement peu nombreux au départ, mais il est certain qu'à la fin, il y a beaucoup de monde. Là, un petit problème. Nous, résistants, de la première heure, enfin, bon, relativement tôt. on avait tendance à considérer les restants comme la dernière valeur, comme des parvenus. Hein, on dit, ouais, c'est là, bien sûr, ils ont profité. Bon. C'est peut-être excessif. Hein. C'est vrai que c'est... Moi, quand je suis rentré, au bout d'un an, et que dans mon petit village, j'ai appris qu'un tel ou tel avait été restant, je savais bien où ils en étaient quand je suis parti. Bon, ben, j'ai retrouvé comme grand résistant. Bon, ils ont sans doute tenu un fusil pendant quelques jours. Hein. Mais c'est pas pour autant que je dois les condamner. Mais ben, il est certain qu'on a eu tendance, nous, à avoir un certain mépris pour eux. On se méfie aussi, on se trompe. Quel que soit le côté d'un qui on se trompe parfois.
Je
sais pas exactement quoi vous faites allusion. C'est une ligne très vive avec votre question. Parce que quand je visionne un documentaire, j'ai l'impression de m'y vautrer un petit peu parfois, parce qu'effectivement, il faut prendre plus être résistant. Oui, c'est bien, il faut en parler. Je ne fais pas. Mais ça éveille sans doute mon intérêt pour les gens. Je ne sais pas quel est finalement le résultat. J'ai très plein à me prononcer là-dessus. Je trouve que c'est bien que de temps en temps on en parle. Mais il me semble qu'il n'y a pas assez de débat. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le débat démocratique. Bon, je souhaiterais que ce qu'on a fait, ce qu'on dit, serve à un débat démocratique. Parce que, bon, tout est là. Hein. Ah, vous me direz, définir la démocratie. On s'y penche pas assez. Il me semble qu'on devrait réfléchir à ce qu'est une démocratie. Il y a une étymologie, il y a des antécédents. Mais il me semble qu'il faut aller au-delà. Je trouve que triste de rencontrer très peu, tant par écrit que par le film, par la télévision, des débats qui apportent quelque chose. Mais bon, il en faut, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, c'est important. Et moi, dans ce que je vous dirai, je ne sais pas ce que vous retiendrez. Ça m'intéresse d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Oui, ça m'intéresse. Une fois, tu vois, et je te remercie, ça a été pour moi très intéressant. En tout cas, si vous avez envie, bon, je veux dire, vous ne forcez pas, vous avez envie de me dire quelque chose à moi, non, n'hésitez pas à me le dire ou à me l'écrire, ça me fera plaisir. Outre le plaisir, ça m'apprendra quelque chose. Je ne vais pas vous retenir puisque les gens ont la cloche.
Je peux peut-être leur donner éventuellement une adresse à Internet où ils peuvent te contacter éventuellement.
Ah oui, alors mon adresse Internet. C'est pierre.figuel, avec un pin, @.nato.fr, vous savez. Donc, pierre.figuel. Alors, vous savez qu'on a donc un site internet aussi, donc vous connaissez sans doute la France, puisque c'est la langue 2.com. Avec un forum, voilà, c'est forcé d'animer. Donc, Pierre, personnellement.
Lalande2.com, c'est le site de l'association Résistance Lalande, donc qui est liée au lycée, qui a été fait en 1994 avec l'ensemble des anciens résistants et déportés du lycée.
J'aurais dû préciser, merci.
Non.
En tout cas, merci.